bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Juliette Gadeau, Monsieur Clément Salazar, Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Deuxième volet donc de notre série consacrée à l'Asie centrale, après avoir évoqué les influences extérieures auxquelles sont soumises ces républiques centra-asiatiques, je rappelle le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan et le Turkménistan, nous allons nous intéresser à la question religieuse et à la manière dont elle participe de la construction, de la reconstruction des identités nationales dans cette région. L'islam de point de départ des identités post-soviétiques, point d'interrogation ?
Allahu Akbar ! Allahu Akbar !
41 morts et 239 blessés. Le dernier bilan de l'attaque de l'aéroport Atatürk à Istanbul est extrêmement lourd.
Moi, j'ai vu un des terroristes. Il était à un mètre de nous. Il avait une bombe sur lui. Il s'est éloigné un peu et moins d'une minute plus tard, il y a eu l'explosion.
Un responsable turc affirme que les nationalités de ces terroristes sont désormais connues. Ils seraient russes, ouzbeks et kirghizes. L'auteur présumé de la fusillade contre une discothèque d'Istanbul a été arrêté. Abdulgadir Macharipov, ressortissant ouzbek, a été interpellé lors d'une opération menée conjointement par la police et les services secrets turcs. Il aurait avoué être l'auteur du carnage du Nouvel An.
Sevdun böyle ağlar. Hiç mi düşün?
De l'attentat à l'aéroport d'Istanbul en juin dernier à celui qui a touché une discothèque la nuit du réveillon dans cette même ville, un point commun. Les auteurs provenaient tous de pays de l'ex-URSS, Ouzbékistan, Kyrgyzstan. Un élément qui tendrait à montrer qu'il existe en Asie centrale des cellules terroristes islamistes capables d'organiser, de planifier des attentats à l'étranger. Rien d'étonnant lorsqu'on sait que les combattants kazakhs, kirghizes, ouzbeks ou turkmènes constituent le troisième contingent de l'organisation de l'État islamique en Syrie et en Irak. Quelle est la réalité du risque djihadiste dans ces pays ? Quelle menace représentent-elles et comment ces anciennes républiques soviétiques s'organisent-elles pour les combattre ? Est-ce que leurs dirigeants n'en profitent pas aussi pour justifier la répression de leurs opposants politiques ? Et au-delà que de la question terroriste, on va se demander comment aujourd'hui la dimension religieuse joue dans la recomposition des identités nationales. Depuis la dislocation de l'espace soviétique, elle semble tout à fait centrale. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Bayram Balcheu. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur au CNRS, membre du CERI, le Centre de Recherche International, un spécialiste des mouvements islamistes turcs et de leur activité missionnaire en Asie centrale post-soviétique. Alors d'abord, peut-être un mot sur cette actualité, puisque ces récentes attaques à Istanbul ont révélé les capacités de nuisance de ces djihadistes centra-asiatiques auxquels on va s'intéresser notamment ce matin, pas seulement, mais un peu quand même. On savait que ces anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale étaient un vivier important, je le disais, pour alimenter les rangs des combattants qui sont partis faire le djihad en Irak et en Syrie. Mais voilà que ces derniers mois, ils s'illustrent également hors du front du djihad. Comment le comprendre ? Est-ce qu'il faut voir là l'inexorable recul de l'État islamique sur le territoire du djihad qui, assez naturellement, je mets des guillemets, modifie la stratégie et se met finalement à perpétrer des méfaits à l'extérieur de ce califat et donc notamment du côté de la Turquie ?
Oui, effectivement, ce qu'on a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, cette multiplication des attentats commis par des gens originaires de l'Asie centrale montre qu'effectivement il y a un phénomène djihadiste en Asie centrale qui au départ était très limité, qui est parti ensuite en Afghanistan et depuis quelques années, du fait de l'aggravation du développement d'un fort djihadisme en Syrie ou en Irak, là il a été importé en quelque sorte dans cette région du Moyen-Orient et depuis quelques mois, au fur et à mesure qu'il y a l'étau qui se resserre contre les djihadistes en Syrie, le résultat est qu'ils partent ailleurs et évidemment en Turquie. Évidemment en Turquie parce que la Turquie est quand même un pays qui a une frontière très longue avec la Syrie, ça c'est la première. La deuxième, c'est qu'en fait, historiquement...
Mais ils pourraient retourner dans leur pays d'origine ?
Mais oui, mais le problème, c'est
commettre des attentats.
Une fois qu'ils sont partis, ils passent par la Turquie, inévitablement, parce que la Turquie est un pays frontalier avec une longue frontière, ça c'est la première. La deuxième, il y a une réalité qu'on oublie, c'est qu'en fait, ces gens qui sont originaires d'Asie centrale, ils passent par la Turquie où il y a déjà depuis plusieurs décennies d'importantes communautés migrants originaires de ces États d'Asie centrale, parce qu'il y a quand même des liens historiques assez importants entre la Turquie et ces États turciques, turcophones, qui fait qu'il y a quand même plus de facilité pour ces gens-là de passer par la Turquie, de s'y arrêter, d'aller en Syrie et de revenir ensuite en Turquie.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de combattants djihadistes originaires de ces 5 pays d'Asie centrale ? Moi, j'ai vu des chiffres, 2000, 3000, 4000 parfois.
Ça varie beaucoup, mais on estime qu'il y a, de chaque république, de ces 5 républiques d'Asie centrale, il y a entre 200 et 400 et 500. C'est ce qui est souvent avancé comme chiffre. Mais le phénomène djihadiste dans ces pays-là, c'est assez compliqué à comprendre dans le sens où ils ne partent pas tous directement d'Asie centrale. Il s'agit souvent de gens qui sont partis, qui ont quitté leur région depuis longtemps, qui ont séjourné en Afghanistan, voire en Russie, où il y a d'importantes migrations centra-asiatiques qui sont en Russie et qui parfois se font recruter par Internet avec différents réseaux sociaux et qui se retrouvent ensuite au Moyen-Orient, en Syrie, en Irak. Et par la suite, pour ce qui est du retour, pour l'instant, c'est un phénomène assez marginal, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui inquiète un peu les autorités en place, qui ont aussi tendance un peu à l'exagérer.
On va revenir évidemment sur la question des profils et des parcours de ces individus. Vous parliez de la Russie. Il y a quelques semaines, on s'en souvient, et pour la première fois depuis le début de l'intervention russe en septembre 2015, la Russie a été directement frappée à travers, on s'en souvient, l'assassinat de son ambassadeur à Ankara. Est-ce qu'il faut comprendre que désormais, là aussi, la Russie pourrait constituer une cible pour des attentats réalisés par ces djihadistes venus d'Asie centrale? Et finalement, pourquoi ça n'a pas encore été le cas? Parce qu'effectivement, il y a là aussi des liens très forts avec la Russie. Beaucoup sont passés par la Russie et ont vécu.
Mais je pense que jusqu'en 2000, jusqu'à il y a un an, il n'y avait pas beaucoup d'attentats perpétrés par les djihadistes sur le territoire russe. D'abord parce que c'est plus difficile, et ensuite parce que ça fait pas longtemps que la Russie bombarde d'une manière massive les positions djihadistes et pas seulement djihadistes en Syrie. Et par ailleurs, c'est qu'en fait, je pense que c'est beaucoup plus facile pour eux de perpétrer ce genre d'attentats en Turquie plutôt qu'en Russie, parce que pour des raisons évidentes et géographiques, c'est beaucoup plus facile pour eux d'aller en Turquie que d'aller en Russie. Et par ailleurs, du
mais c'est
Russie,
une possibilité quand même qu'ils frappent la Russie. Parce que je rappelle quand même l'un des arguments.
C'est déjà arrivé d'ailleurs.
L'un des arguments de Vladimir Poutine en septembre 2015, lorsqu'il envoie l'armée russe, c'est de dire précisément qu'il veut éviter à tout prix que les djihadistes, et notamment ceux qui viennent du Caucase ou de cette Asie centrale, ne reviennent en Russie pour commettre des attentats. C'est l'un des arguments qu'il avait avancé à l'époque.
Oui, mais il a aussi fait ça d'une manière assez cynique, parce que il y avait quand même des djihadistes qui étaient assez importants dans le Caucase. On sait très bien que les services russes ont fait exprès de les laisser partir, alors qu'ils ont pu les coincer. Mais pour qu'ils puissent partir en Syrie, c'était un moyen aussi de justifier l'intervention russe en Syrie, qui par ailleurs a beaucoup plus visé les non-djihadistes que les djihadistes. Ça aussi, c'est un autre aspect du problème.
Pourquoi est-ce que ces combattants sont partis faire le djihad en Irak et en Syrie? Est-ce que c'est le désir de participer, disons, à la construction de ce califat, ou est-ce qu'il y a également des motivations, disons, politiques liées à leur pays d'origine?
Je crois que les raisons sont pareilles, les mêmes que celles qui existent chez nous, en fait. C'est-à-dire que vous avez d'abord une motivation, une raison qui est liée à la situation de désespoir, mais qui n'explique pas tout, la situation économique. Mais aussi, il y a toujours un engouement pour le djihadisme. Dans chaque société, vous aurez toujours des gens qui sont passionnés par la violence, par le djihadisme. Et enfin, il y a une réalité qu'on oublie, c'est qu'en fait, le fait qu'il y ait pour la première fois un élément djihadiste, une organisation djihadiste qui est avec un ancrage territorial, c'est le cas du Daesh, de l'État islamique, alors que ce n'était pas le cas pour Al-Qaïda, ça a un impact considérable sur l'imaginaire de ces gens-là, qui disent on est enfin dans un pays, dans un État régi par le droit musulman, par l'islam. Évidemment, ça fait développer beaucoup de fantasmes. C'est aussi pour ça qu'ils partent. Et enfin, pour ce qui est des centra-asiatiques, ils partent aussi parce que le djihad qu'ils attiraient auparavant en Afghanistan et au Pakistan est un peu démodé, parce que ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils sont là-bas, ça devient de plus en plus cher, et il y a une captation, une fascination du Daesh en Syrie, en Irak, qui fait qu'ils se rendent là-bas.
Vous dites qu'il est assez difficile, évidemment, de dessiner un portrait type de ces combattants centra-asiatiques partis faire le djihad. On a évidemment la même difficulté, nous, ici. Mais il y a quand même des dénominateurs communs qui vous semblent apparaître. Lesquels, précisément? Quels sont, en gros, les profils, les parcours types qu'on va retrouver le plus souvent?
Pour ce qui est des
pour ces combattants centra-asiatiques, j'entends.
Pour ce qui est des gens qui partent d'Asie centrale, la plupart des gens, ils sont jeunes, ils ont déjà quitté l'Asie centrale avant d'entrer en phase, en contact avec un phénomène djihadiste. Donc, ils sont déjà partis ou en Russie pour travailler. Et je pense que ça, cet aspect des choses est très important. Ils partent en Russie pour trouver du travail. Or, la crise économique russe fait que beaucoup de gens ont été obligés ont perdu leur emploi, ils sont obligés de rentrer chez eux, et pour ne pas rentrer chez eux, il y a un passage à la radicalisation, ils se font recruter sur Internet et non pas du tout dans des madrassas ou dans des mosquées, comme on a souvent tendance à le dire, et c'est comme ça qu'il se fait en fait. Donc, ce sont des gens qui ont perdu le lien social, qui sont seuls, isolés, et qui sont un peu passionnés par les nouvelles méthodes de recrutement qui se font sur Internet. Et il y a la fascination pour l'État islamique parce qu'on imagine qu'on va essayer enfin trouver un État réellement régi par l'islam avec toute la propagande de Daesh qui malheureusement parfois a ses effets.
Alors quand on regarde d'où viennent majoritairement ces combattants, on voit que beaucoup viennent de la vallée de Fergana qui est partagée entre l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, la vallée de Fergana.
Si j'ai quitté la Syrie pour rentrer au Kyrgyzstan, c'était dans le but de rencontrer deux ou trois personnes de Turquie venues commettre une attaque terroriste en Ouzbékistan. J'ai accepté de les aider à franchir la frontière pour entrer en Ouzbékistan car je connaissais un chemin caché.
Mon fils n'est pas rentré pendant deux nuits. Le 4 janvier, des agents du département antiterrorisme ont débarqué chez nous. Ils ont fouillé toute la maison, mais n'ont rien trouvé. Ils ont vérifié ses affaires, son uniforme de l'armée, et se sont même rendus dans un magasin de Coran où il était vendeur. Mais ils n'ont rien trouvé.
Voilà, la vallée de Fergana, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que beaucoup de combattants viennent d'ici, Bayram Baltche. Et là, il faut faire un petit peu d'histoire. Rappeler qu'au 8e siècle, l'Asie centrale fait déjà l'objet d'une âpre bataille entre, en l'occurrence, les armées arabes et chinoises à l'époque, notamment avec cette très fameuse bataille de Talas en 751, qui se joue dans cette vallée de Fergana, qui voit la victoire des Arabes et le désengagement des Chinois. Et en fait, il faut comprendre que historiquement, cette région, c'est une zone absolument décisive qui a marqué en réalité le recul de l'influence chinoise et dans la région et l'extension de la sphère d'influence arabe. C'est là que tout s'est joué en réalité.
Tout à fait, exactement. Et il y a un autre aspect de cette question, c'est qu'en fait, c'est une région, la vallée de Fergana, à cheval sur plusieurs pays de la région, a été la moins marquée par la colonisation, la domination russe. Si vous regardez bien un peu le phénomène urbain en Asie centrale, il a surtout lieu dans les nouvelles villes, bâties comme Tashkent, comme Chimkent, Almaty et les autres. Mais la vallée de Fergana a très peu été marquée par la russification, donc par la culture européenne occidentale. Et par ailleurs, c'était aussi une région beaucoup plus densément peuplée. Et je pense que ça a aussi contribué au fait que est devenue beaucoup plus propice à une espèce de terreau de développement de l'islamisme. Mmh. Et c'est aussi une région qui était beaucoup plus pauvre, beaucoup plus isolée et marginalisée, négligée pendant l'empire soviétique. Et depuis 91, le même phénomène se poursuit. Ce qui explique aussi pourquoi il est beaucoup plus facile pour le djihadisme de se développer dans cette région que dans le reste de l'Asie centrale.
Alors évidemment, aujourd'hui, c'est un terreau propice, vous le dites, à l'islam radical, mais ça n'a pas toujours produit que ça. Il y a des grandes figures intellectuelles qui viennent justement de cette région-là. Je pense au père de la médecine, Ibn Sina,
tout à
nous
fait.
À Vicenne, en Occident, mais il y en a d'autres
qui ont
influencé très largement au-delà
bien
de
évidemment,
ces frontières.
C'est-à-dire que c'est un phénomène, malheureusement, à l'heure actuelle, à cause des attentats à Istanbul et ailleurs, on a tendance à retenir que l'idée de cet islam radical de l'Asie centrale, alors qu'en réalité, il est très peu représentatif, c'est-à-dire qu'il est, c'est un phénomène tout à fait mineur, marginal en Asie centrale, mais on en parle parce que malheureusement, ça fait beaucoup de victimes humaines. Mais en réalité, si on regarde bien la place de l'islam en Asie centrale, c'est qu'en fait, historiquement, l'Asie centrale a toujours été le berceau de plusieurs une espèce de phare de la civilisation islamique. Vous avez beaucoup d'intellectuels, donc Ibn Sina, Farabi, Bukhari, qui sont nés en Asie centrale, qui ont contribué à la civilisation islamique, et pas seulement à la civilisation universelle.
Farabi, qui était un grand philosophe.
Un grand philosophe, ouais. Bien évidemment, qui est né dans l'actuel Kazakhstan. Et c'est un phénomène qu'on a tendance à oublier, alors que, historiquement, ça a occupé une place considérable dans la civilisation islamique.
Mais si on essaye de comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette émergence d'un islam radical, c'est qu'il y a aussi derrière une montée en puissance plus globale de l'islam. Il y a un retour de l'islam, il y a une islamisation d'une certaine manière de ces sociétés. Alors on peut le comprendre, bien sûr, la fin de l'ère soviétique a permis ce retour. Mais est-ce que c'est seulement ça? Est-ce que c'est parce que avec la fin de l'URSS, eh bien l'islam a pu retrouver sa place dans la société? Ou est-ce que c'est aussi lié d'une certaine manière à une montée en puissance des valeurs qui vont avec et qu'on a peut-être aussi qui révèlent aussi peut-être d'autres choses? Je pense à la défaillance des États, peut-être, aux difficultés socio-économiques, à plein de choses.
C'est effectivement, il y a une double dynamique en quelque sorte, c'est-à-dire que à la fin de, même déjà avant la fin de l'Union soviétique, avec la perestroïka et la glasnost, il y a déjà un certain renouveau identitaire qui vient de la base, qui est demandé par la société et qui sera ensuite accompagné par les régimes en place qui veulent marquer la rupture avec la période soviétique. Et c'est aussi à partir de 91, à partir du moment où ces États deviennent indépendants, forcément il y a un contact avec l'islam du reste du monde, ce qu'on pourrait appeler l'islam globalisé, la globalisation du religieux, c'est un phénomène qui touche aussi l'Asie centrale. Et le fait que ces États établissent des relations diplomatiques avec d'autres régions du monde, d'autres États musulmans, avec lesquels ils avaient eu peu de relations du fait de la domination soviétique. Et là, ça contribue inévitablement au développement d'un certain islam qui n'est pas systématiquement radical, qui est parfois aussi demandé par les régimes en place et qui contribue à la mise en place d'un islam majoritaire soutenu par les régimes en place pour pouvoir répondre à une certaine demande qui vient de la base.
Alors, restons peut-être un tout petit instant, si vous le voulez bien, sur ce point précis. C'est-à-dire qu'effectivement, avec la chute de l'URSS, on a un islam qu'on va appeler, disons, local, qui va se retrouver en contact avec des influences musulmanes extérieures, venues peut-être d'Arabie Saoudite, venues peut-être d'Iran, venues peut-être aussi de Turquie. Comment se passe cette mise en relation? Quels sont finalement les courants, les mouvements, les écoles qui vont sortir renforcés par cette bataille idéologique quand même d'une certaine manière, parce que c'est aussi ça dont il est question.
Il y avait effectivement, je pense que le terme de bataille idéologique
interne à l'islam, je vais dire.
Le terme de bataille idéologique est justifié, je pense, effectivement, à partir de 1991. On se fait beaucoup de fantasmes sur l'Asie centrale, une nouvelle terre de conquête pour le monde musulman, pour les différents courants du monde musulman. Et vous avez une certaine rivalité, en fait, entre différents courants, différents pays musulmans qui s'intéressent à l'Asie centrale. Donc, historiquement, cette région, elle avait été liée au monde iranien, au monde turc, au monde, au sous-continent indien, à la péninsule arabique. Et vous avez des courants religieux de ces pays-là, représentatifs, différents courants de chacune de ces provenances de ces aires géographiques qui vont venir en Asie centrale par différents canaux. D'abord par l'établissement de relations diplomatiques, ensuite par le commerce et aussi par le fait qu'il y a, vous avez des gens qui partent d'Asie centrale pour voyager dans ces pays-là. Vous avez le pèlerinage, vous avez d'autres phénomènes de circulation des idées qui font que, à un moment, les États se sentent obligés de mettre en place des politiques de régulation, de contrôle, de sélection de ce qui est bon ou mauvais, de ce qui est bien à importer ou pas du tout à importer en Asie centrale.
Mais avant de justement venir à ces politiques de régulation, de contrôle, de gestion, finalement, qui sort vainqueur de cette bataille idéologique? Est-ce que c'est effectivement cet islam venu d'Iran? Est-ce que c'est le wahhabisme saoudien? Est-ce que ça dépend des pays?
En fait, on a un paradoxe et une surprise. C'est-à-dire que, en 1991, je me souviens encore, à l'époque, on commençait à s'intéresser à l'Asie centrale. On avait le sentiment, en fait, que la Turquie allait exporter un modèle de sécularisme, de laïcité, ce qui était un peu, la mission assignée à la Turquie par ses alliés occidentaux. Et en fait, paradoxalement, la Turquie a exporté beaucoup de phénomènes religieux, pas forcément radical, pas du tout, mais une certaine islamisation qui était favorisée par la Turquie. Et alors qu'à l'époque, la crainte était que l'Iran ou l'Arabie Saoudite deviennent, contrôlent un peu la religion, le champ religieux. Mais en fait, ça a été surtout la Turquie qui a beaucoup plus exporté la religion dans ces pays-là. Et le rôle de l'Iran a été insignifiant parce que les Iraniens sont chiites, alors qu'en Asie centrale, la majorité de la population est sunnite. Mmh. Et l'Arabie Saoudite aussi, là aussi, il y a un développement certes d'un courant salafiste, mais qui n'est pas venu que de l'Arabie Saoudite et qui est insignifiant par rapport à d'autres influences qui sont venues de Turquie et de l'Inde et du Pakistan. Mais malheureusement, comme le salafisme qui parfois vire, pas automatiquement, pas systématiquement, mais qui parfois conduit au djihadisme, fait qu'on entend beaucoup plus parler de cette situation-là, en fait.
Mmh. Sur la Turquie, alors il y a évidemment ce qu'on appelle le mouvement Gulen, du nom de cet imam réfugié aux États-Unis depuis 1999. Il faut se souvenir que c'est un homme qui avait été d'abord l'allié politique de Erdogan avant de devenir le véritable paria qu'il est. À chaque fois qu'il y a un problème en Turquie ou quasi, le pouvoir pointe du doigt la responsabilité de Gulen et de son réseau, de son mouvement. C'est un véritable mouvement puisqu'on voit cet activisme religieux dans un certain nombre de champs, le champ politique, le champ judiciaire, le champ économique, le champ de l'éducation aussi. Il y a des écoles gulenistes un peu partout en Turquie, mais aussi à l'extérieur de la Turquie. Et il se trouve que précisément l'Asie centrale a été un terrain très propice à l'implantation de ce mouvement guléniste. Je voudrais comprendre pourquoi.
Oui, mais d'abord j'aimerais apporter une petite nuance.
C'est qu'en
fait, l'implantation de la mouvance du mouvement de Fethullah Gulen en Asie centrale est effectivement fondamentalement importante dans l'histoire du mouvement. C'est d'abord ici, dans cette région, que le mouvement s'est implanté pour des raisons multiples sur lesquelles on peut revenir. Mais c'est une implantation qui, au départ, avait une motivation religieuse, mais la diffusion de l'islam, assez rapidement, est devenue presque secondaire. Secondaire parce que, et en fait, on constate que l'exportation d'un certain islam turc en Asie centrale a été le fait beaucoup plus de l'État turc, avec sa Diyanet, donc l'organisme officiel de gestion du fait religieux, et aussi d'autres mouvances religieuses, mais un peu moins, beaucoup moins, le mouvement de Gulen, qui assez rapidement, par pragmatisme, a compris que la priorité pour lui, pour pouvoir être influent, était d'ouvrir des écoles beaucoup plus modernes, séculières, de développer le commerce, une politique éducative. Et le côté religieux est vraiment très secondaire, voire tertiaire en quelque sorte. Mais néanmoins, et il a été soutenu par l'État turc pendant longtemps, et c'est vrai que c'est grâce à la mouvance de Gulen qu'il y a le développement d'un véritable soft power de la Turquie en Asie centrale. Et à l'heure actuelle,
on peut quand même pas dire que c'est un mouvement apolitique. Il y a évidemment beaucoup de politique derrière cela.
Bien évidemment. Mais en fait, il n'y a pas un mouvement, il y a des mouvements de Fethullah Gulen. Oui. C'est-à-dire que pour le comprendre dans sa globalité, il faut l'observer pas seulement en Turquie, pas seulement en Asie centrale, mais dans l'ensemble des États du monde où il est présent. C'est-à-dire que
je rappelle juste pour les auditeurs que vous connaissez à peu près votre sujet parce que votre thèse porte précisément sur ce sujet-là. Hein,
donc, tout à fait. Voilà. C'est-à-dire que la politisation progressive du mouvement en Turquie, n'a pas été comme tel en Asie centrale. C'est-à-dire que le fait que, pour le moment, le fait d'avoir un engagement éducatif et développementaliste, en quelque sorte, en Asie centrale, est un moyen de soutenir ces projets politiques en Turquie. Et c'est en cela qu'on comprend, c'est une fois qu'on a compris cela, qu'on peut comprendre pourquoi il y a un tel engouement, une telle détermination de Erdogan à vouloir se débarrasser de ce mouvement partout où il est présent parce qu'il sait que la politisation du mouvement en Turquie vient en partie du fait qu'il a des activités non politiques d'autres régions du monde, notamment en Asie centrale.
Encore un mot avant de retrouver notre nouvel invité, un nouvel invité par téléphone. Vous disiez que il y a eu évidemment toutes ces influences extérieures venues d'Arabie Saoudite, d'Iran, de Turquie, vous en parliez à l'instant, et que face à cela, les États ont essayé d'apporter une réponse, notamment en mettant en place des dispositifs, des outils qui permettent de contrôler d'une certaine manière le religieux, de contrôler cette islamisation de la société pour finalement construire, disons, un islam compatible avec les États considérés. Concrètement, quels sont les pays qui ont mis en place ce genre de choses?
Tous.
Et avec quel résultat?
Tous les États ont cherché à endiguer, à contrôler, à réguler les flux religieux qui viennent de l'étranger. Mais je pense que même s'il n'y avait pas eu de mouvement religieux de l'extérieur, ils auraient contrôlé de toute façon, parce que le phénomène religieux est tellement important pour eux par rapport à la formation de la nouvelle identité du pays et par rapport à ce qu'ils appellent la stabilité, la sécurité, qu'ils sont obligés, en tout cas ils se sentent obligés, de mettre en place des mécanismes de contrôle de l'islam. Cela se fait d'une manière générale par deux instruments. Le premier, c'est la direction. Ce sont les directions des affaires religieuses. Donc, en gros, c'est tout l'establishment religieux, le grand mufti avec tous ses subordonnés. Donc, ça, c'est le politique, le contrôle. Et le deuxième, c'est qu'en fait, dans tous ces États-là, on a créé des comités d'État pour s'occuper des affaires religieuses. Là, pour le coup, c'est pas un personnel religieux, ce sont des bureaucrates qui sont là pour s'occuper de la question de la sécurité, de la compatibilité entre les nouvelles valeurs adoptées par le régime en place et les courants islamiques qui sont là en place, qui deviennent de l'étranger. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'émergence d'un mouvement, d'un islam national qui accepte d'être sous la tutelle du pouvoir politique en place.
Et est-ce que ça fonctionne? Parce que si on revient à notre discussion de départ, c'est-à-dire cette question des actes terroristes, il y a bien effectivement des combattants qui sont partis d'Asie centrale pour aller faire le djihad. Donc ça veut dire qu'il existe un islam radical malgré ces dispositifs,
tout à
malgré
fait.
Ces outils.
C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'empêcher qu'il y ait un islam, on va dire, dissident et radical, mais néanmoins...
Il existe quand même.
Il existe quand même, mais je dirais qu'une bonne partie... Une bonne partie de la population de chaque pays se reconnaît, accepte quand même cet islam qui est offert par les États. C'est-à-dire que vous aurez 80-90% qui se reconnaissent dedans. Et si vous avez que 10% ou moins que ça qui ne se reconnaissent pas, qui contestent cet islam, eh bien, ma foi, ou deviennent fondamentalistes mais qui vivent chez eux reclus de manière recluse, ou alors ils partent faire du djihad à l'étranger.
Asie centrale, la terre du milieu, c'est notre sujet cette semaine dans Culture Monde. L'islam, point de départ des identités post-soviétiques. On est avec Bayram Baltcheu.
France Culture. Culture Monde, Florian Delorme.
Musulman daima ikkinchi sot bo'lib yurishgada tushundirib qolishgan. O'sha tip ko'rsatgan, bosmachi deb ko'rsatgan bizga kelgan o'sha bosmachi eng jamandar moldonlar deb ko'rsatib berishgan. Ahmoqlar ushlar deb aytib bergan.
Cette voix que vous entendez à l'instant, c'est celle de Chubak Haji Jalilov, un imam kirghize très connu qui, alors qu'il avait dirigé justement les affaires religieuses de l'islam dans son pays pendant 2 ans, de 2010 à 2012, a remis en cause assez récemment le caractère laïque de l'État kirghize avec une certaine véhémence. Bonjour David Gozer.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe président du Centre d'observation des sociétés d'Asie centrale, membre associé au Centre Montesquieu de recherche politique à l'Université Bordeaux 4. Je voudrais qu'on parle ensemble de ce rapport entre l'islam et l'identité au Kyrgyzstan. On vient de diffuser à l'instant cette voix, alors les auditeurs ne la connaissent pas, mais vous en revanche vous la connaissez. C'est un homme, Chubak Haji Jalilov, qui a beaucoup divisé la société kirghize autour de cette question de la place de l'islam dans l'identité kirghize, David Gozer.
Oui, oui, tout à fait. C'est, disons qu'il a eu le mérite de mettre vraiment en exergue, en évidence, les contradictions qui s'illustre actuellement dans la.
Alors David Gozer, on va couper peut-être la liaison. On va tout simplement vous rappeler parce que là on vous entend très mal. Donc on va vous rappeler très très simplement et puis essayer d'avoir peut-être une liaison un tout petit peu plus propre. Bayram Baltcheu, je parlais du caractère laïque de l'État kirghize. Il faut peut-être préciser un tout petit peu les choses parce que cette laïcité dont on parle dans ces régions-là au Kirghizistan, mais d'une certaine manière en Turquie, c'est exactement la même chose. C'est pas celle qu'on connaît, nous, ici, en France. C'est-à-dire que c'est une laïcité qui est fondée sur un principe de contrôle, de gestion de l'islam. C'est-à-dire qu'on va financer les mosquées, on va contrôler les écoles, voir quels sont les programmes que l'on met à l'intérieur. C'est un contrôle, en réalité. Hein. C'est pas une séparation des pouvoirs, comme on peut l'imaginer. C'est pas la même chose.
Mais c'est pas la même chose en France.
Pardon.
N'est-ce pas la même chose en France, un peu, une situation de... Non, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une séparation qui... C'est pas une séparation, c'est-à-dire que c'est une laïcité qui est beaucoup plus musclée, militante, dans le sens où il y a non pas une séparation, mais un contrôle du religieux par le pouvoir politique en place, mais c'est aussi une attitude et un comportement, une façon de gérer l'islam qui vient de la période soviétique, en fait. Déjà, pendant la période soviétique, ça se faisait de la même manière, et on a le sentiment, en fait, que les régimes issus de l'ex-URSS ont à la fois poursuivi et un peu modernisé cette façon de contrôler l'islam, ce qui fait qu'on a l'attitude, on a le sentiment qu'il y a une certaine ambiguïté du politique vis-à-vis du religieux, mais qui est aussi fait de compromis et de contrôle pour pouvoir assurer la bonne gestion de l'État, en fait.
Alors, est-ce qu'il faut comprendre, justement, que ce compromis a volé en éclats du côté du Kirghizistan? On va retrouver David Gozer, qui doit être avec nous. Bon, rebonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, c'est parfait, on vous entend bien mieux. Est-ce que vous diriez que Jalilov, justement, il incarne cette rupture du fameux compromis dont on parlait avec Bayram Baltcheu entre les autorités publiques et les autorités religieuses au Kirghizistan?
Quelque part, oui, parce que je tiens quand même à signaler que Monsieur Jalilov... c'est surtout illustré après son mandat. Dès qu'à partir du moment où il a retrouvé la liberté de sa voix, quand il n'était plus moufti, Il est resté influent auprès donc des oulémas kirghizes. Et après, il a commencé donc à partir de 2012 à parler librement et avec, je dirais, véhémence à défendre certaines valeurs islamiques. Bon, Monsieur Djalilov, il est né en 75, c'est la dernière génération, celle qui a été peu soviétisée et qui a été formée aux écoles religieuses moyen-orientales, donc qui est en contact avec l'islam globalisé. Il a mis en exergue, je dirais, les trois contradictions de la société kirghize qui jusque-là a été tue. D'un côté, on avait trois groupes en Kirghizie, très clairs. On avait les laïcs, les religieux et aussi les tengristes. Alors les tengristes, c'est un groupe à part, propre aux Kirghizes. Bien sûr, ils se reconnaissent dans l'islam, mais un islam très chamanisé, très superficiel finalement des Kirghizes, qui combinent des divinités chamaniques. Et ce sont ces personnes essaient aujourd'hui de récupérer le tengrisme, non pas pour en faire peut-être une religion, mais une certaine doctrine, pour mettre en avant l'identité nationale. Elle se heurte en conséquent aux personnes laïques qui ont été très soviétisées, qui sont pour la plupart athées et de la génération des années 50. On a eu la génération suivante qui était plutôt occidentalisée mais qui est restée laïque, et c'est cette dernière génération qui au contraire est plus religieuse et qui du coup se retrouve en confrontation avec les deux autres groupes.
Oui, et c'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle, c'est parce que ce sont les plus jeunes d'une certaine manière qui sont les plus radicaux, qu'on évoque une forme d'islamisation dans l'ensemble de cette région-là. Vous avez écrit un article intitulé « Kirghizie, l'islam politique en tension avec l'identité nationale » et vous y rappelez que, je le disais, donc officiellement le Kirghizistan est un état laïque, et vous expliquez que depuis l'indépendance, le pays connaît une forme d'islamisation de la société, même si en réalité il faut regarder les choses un peu de près parce que ça se fait pas façon homogène dans l'ensemble du pays. Il y a certaines régions, et en l'occurrence le Nord, qui sont plus en marge de cette dynamique. Mais plus globalement, face à cette montée quand même de l'islam, on retrouve un courant, disons, nationaliste qui va jouer justement sur les peurs, qui va dénoncer cette islamisation. Quelles sont les formes de ce courant nationaliste, très concrètement ?
Disons qu'il y a déjà le pouvoir officiel avec le président, en premier lieu, Almazbek Atambayev, qui lui met en avant les valeurs nationales. On a eu un affichage choc à partir de 2015 d'affiches qui, où on avait deux dessins avec une cassure entre les deux. Un côté le dessin traditionnel à gauche, c'était un homme en habit traditionnel, une femme en habit traditionnel, et puis à droite l'un ou l'autre avec les habits salafistes. Et dessus, avec le slogan d'interpellation de la population, voulez-vous que votre pays devienne ça? Voulez-vous devenir ça? Il y avait ces différentes questions. Et là, on a vraiment, clairement, depuis 2014-2015, une lutte contre ce que le pouvoir appelle l'arabisation, c'est-à-dire les tendances exogènes qui vont influencer l'islam national. Donc le pouvoir...
Mais pardon, vous coupez, pourquoi fait-il ça? Est-ce que c'est réellement parce que il veut lutter contre cette montée en puissance de l'islam, et en particulier de l'islam extérieur, je reprends votre formule, ou est-ce que c'est aussi une manière pour lui d'asseoir son propre pouvoir? Est-ce qu'il y a une forme d'instrumentalisation derrière tout ça? Disons-le.
Je ne pense pas, parce que la Kirghizie depuis l'indépendance a quand même connu, même sous les deux précédents régimes autoritaires, un certain libéralisme politique. Il y avait des courants de pensée les plus contradictoires qui s'exprimaient, et là-dessus il y a quand même un débat entre différentes forces politiques. Or, pour des motifs et pour des motivations différentes, que ce soit le président, mais aussi les forces d'opposition, aussi diverses soient-elles, se retrouvent sur cette question, mais pour des motivations différentes. Par exemple, le pouvoir va mettre en avant une certaine folklorisation nationale de l'islam, où l'homme portera ou devra porter le kalpak kirghize, la femme dans l'habit traditionnel kirghize. Mais, à contrario, je dirais que les nationalistes kirghizes qui s'inspirent du tengrisme ou d'autres traditions plus anciennes les nationalistes vont récupérer la nationalisation de l'islam pour au contraire, surtout dans le sud, donner une prévalence sur les Kirghizes par rapport aux autres peuples, notamment les Ouzbeks.
David Gozer, encore une question et puis ensuite je passerai la parole à Bayram Baltche. Est-ce que très concrètement, dans le paysage politique kirghize, on va retrouver des mouvements, des partis qui se revendiquent de l'islam politique? Quels sont leurs poids? Et par exemple, regardons les choses du côté du Parlement, est-ce qu'on a véritablement des propositions législatives qui vont dans le sens de l'islamisation? J'aimerais comprendre le véritable poids politique de cet islam, David Gozer.
Bon, la constitution de 2010 en Kirghizie est laïque et par son article 7 interdit clairement toute expression du religieux en politique et toute formation de formation à base religieuse ou je dirais ethnique aussi en politique. Donc il n'y a pas de parti qui se revendique de l'islam, du moins il n'y a pas de parti officiel. Après, il y a des personnalités influentes qui peuvent utiliser des partis ou s'exprimer hors parti. Je pense à Bakir Oulou, je pense aussi au chantre de l'islamo-populisme Nourlan Motouyev, qui utilise l'islam pour se mettre en avant et pour faire progresser ses revendications religieuses de l'intérieur. Donc, on a eu, par exemple, le Parlement qui a cédé récemment pour la mise en place d'une salle de prière, donc à l'intérieur même du Parlement. Sur la polygamie, ça se joue de peu. C'est-à-dire, souvent, ces questions peuvent revenir des jours où il n'y a pas influence, où il n'y a pas affluence au Parlement et où c'est susceptible de passer. Mais heureusement, pour l'instant, il y a quand même des ferments importants de la société, des partis importantes qui luttent contre l'islamisation.
Oui, le camp laïque est encore assez fort. Vous restez avec nous, David Gozer, j'ai encore des questions à vous poser, mais je voudrais passer la parole à Bayram Baltche qui est avec nous.
Par rapport au Kirghizistan, je pense que David fait surtout référence, c'est-à-dire que la volonté du pouvoir kirghize de lutter contre l'arabisation, notamment vestimentaire, je pense qu'il y a surtout référence qui est faite à un phénomène qui est très répandu en Asie centrale, mais surtout au Kirghizistan qu'on appelle l'établiri. Et l'établiri, c'est une mouvance qui est très prosélyte, qui est très, très forte au Kirghizistan. Elle est née en Inde, donc c'est... et depuis 1991, c'est un phénomène de prédication qui est très puissant et qui arrive. Il a été interdit dans tous les autres pays d'Asie centrale, sauf au Kirghizistan, où il y a une liberté religieuse qui est beaucoup plus importante que dans les autres, et qui est aussi une mouvance religieuse qui a été récupérée en quelque sorte par le pouvoir, parce que maintenant, au sein de la direction des affaires religieuses, il y a un département qui a été confié à cette mouvance religieuse qu'on appelle l'établirie. Je précise que l'établirie, on les a aussi en France, notamment dans la banlieue parisienne. Vous avez une mosquée qui est contrôlée par l'établirie. Et en France, cette mouvance porte le nom de Foi et Pratique. Donc l'organisation Foi et Pratique appartient à cet islam qui est né en Inde. Et c'est un mouvement islamique qui surtout fait du porte-à-porte pour inviter les gens à faire la prière, à se comporter d'une manière conforme à l'islam. Et le pouvoir kirghize a légalisé ce mouvement pour pouvoir... encadrer la jeunesse kirghize pour pas qu'elle sombre dans l'alcoolisme, etc.
Ouais, preuve d'une certaine liberté aussi au Kirghizistan, et il faut peut-être préciser ça pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que probablement que c'est le pays le plus démocratique de la région. Il faut rappeler qu'en 2005, on a eu cette révolte populaire qu'on avait appelée la révolution des tulipes, et que, même s'il y a encore, bien sûr, et régulièrement des ONG le dénoncent, des violations des droits de l'homme, c'est probablement le pays le plus démocratique de cette Asie centrale. Je reviens vers vous, David Gozer, pour regarder peut-être aussi ce qu'il y a derrière cette opposition entre, disons, islamisme et nationalisme qu'on évoquait. Parce qu'on a aussi des fractures d'ordre ethnique. En réalité, on a aussi une opposition à l'intérieur du Kirghizistan entre les Kirghizes et les Ouzbeks, qui sont minoritaires, c'est vrai, c'est à peu près 15% de la population, mais qui jouissent d'un accès aux richesses plus avantageux traditionnellement. Donc on a aussi des fractures de cet ordre-là, David Gozer.
Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, le mouvement d'islamisation, quand même, est généralisé dans le pays, notamment par le rôle du tablir qu'a bien révélé Bayram. Mais c'est vrai que dans le sud, cette islamisation est plus forte parce que traditionnellement, on a cet îlot conservateur que constitue la vallée du Fergana, qui est partagée entre trois pays et qui est majoritairement peuplée de populations ouzbékophones. Donc là, les Ouzbeks représentent 16% de la population kirghizistanaise, mais en réalité, dans le sud, étant concentrés dans cette région, ils sont largement plus nombreux. Mmh. On les évalue à autour de 40% à Osh, la deuxième ville du pays, et à plus de la majorité dans les villes alentours de Karasu, Kızılkaya. Alors ceci a son importance parce que parmi les terroristes arrêtés à Istanbul, que ce soit en juin dernier à l'aéroport Atatürk ou en janvier dernier, les personnes arrêtées en Turquie venaient de ces villes-là, venaient de Karasu et de la région de Karasu. Ce sont soit des ouzbékophones ou des ouïghours, c'est-à-dire des gens qui sont très proches des ouzbeks mais qui habitent dans l'ouest chinois, et qui sont plus religieux que la moyenne nationale et qui profitaient de la liaison directe Osh-Istanbul pour pouvoir se rendre en Turquie. Mais effectivement, on a cette région de tradition sédentaire qui est le Fergana kirghiz, où on a même dans la vallée une opposition ethnique franche entre les Kirghiz qui ont un islam plus fort dans le sud que dans le nord, mais quand même reposant davantage sur des rituels au sud, et les Ouzbeks qui ont un islam plus dans le texte, plus dogmatique. Ces deux peuples se sont affrontés plusieurs fois, notamment en 90, il y a eu des pogroms en juin 90, et jour pour jour, 20 ans plus tard, jour pour jour, on a eu d'autres pogroms aussi en 2010. Donc on a vraiment une tension persistante et une différence culturelle nette, bien que les deux populations soient musulmanes et sunnites. Mmh.
Merci beaucoup David Gozer de nous avoir éclairé ce matin sur ces rapports entre islamisme, nationalisme au Kirghizistan. C'était très intéressant de pouvoir vous entendre ce matin. On va accueillir un nouvel invité, on va parler de chamanisme en Asie centrale. Le chamanisme, c'est cette pratique centrée sur la médiation entre le monde des humains, celui des morts, mais chaman, il est capable de parler aux esprits de la nature. On en retrouve un peu partout dans le monde et on en retrouve notamment en Asie centrale, notamment du côté du Kazakhstan.
J'ai appris l'existence de ce lieu chamanique par un de mes amis. Je n'avais aucun désir particulier de me rendre au Kazakhstan, mais j'ai fait un rêve où j'ai vu cet endroit. Je marchais pieds nus dans la neige vers une maison. J'étais empli d'un sentiment extatique de bonheur. Lorsque je me suis réveillée, j'ai compris qu'il fallait que j'y aille. Le lendemain, j'ai acheté un billet d'avion pour un mois. Ici, j'ai trouvé des rituels anciens qui sont rarement pratiqués de nos jours. L'objectif de ces rituels est de nettoyer son karma et les péchés capitaux de ses ancêtres qui se sont transmis à travers les générations. Les péchés capitaux sont transférés dans le mouton et s'en vont avec lui, et la personne est purifiée par le sang de l'animal.
Et là, vous n'avez pas l'image, mais on voit des gens qui se faufilent sous les pattes du dit mouton, extrait d'un documentaire kazakh avec Apa, cette vieille chamane kazakh qui effectue de nombreux rituels et qu'on vient voir de loin. Bonjour Thierry Zarkon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, anthropologue, directeur de recherche au CNRS et puis auteur notamment de ce livre, Le chamanisme de Sibérie et d'Asie centrale. Pardon. Vous êtes intéressé, vous, à l'histoire du soufisme, du chamanisme dans l'Empire ottoman en Turquie et en Asie centrale. Vous avez passé plusieurs années en Asie centrale et notamment, je crois, 2 ans en Ouzbékistan. Mais vous avez fait beaucoup de voyages régulièrement dans cette région. D'abord, on va faire un tout petit peu d'histoire, si vous voulez bien, Thierry Zarkon, parce que ce chamanisme, il était pratiqué, vous l'expliquez, en Asie centrale, bien avant que l'islam n'apparaisse au 7e, 8e siècle. Et puis quand l'islam va apparaître, le chamanisme, d'une certaine manière, va se transformer pour continuer d'exister à l'intérieur du cadre de l'islam. Quelles sont les pratiques par lesquelles, justement, ce chamanisme va se conserver dans cet environnement islamique, Thierry Zarkon?
Oui, effectivement, lorsque l'islam donc, se heurte au chamanisme, étant donné que le chamanisme n'est pas une religion monothéiste, il doit disparaître. En fait, il va se transformer, il va s'adapter à l'islam. C'est-à-dire, il ne devient plus la religion des peuples de la région, il va se transformer plutôt en des formes de guérison, de relation aux esprits. Alors, cette adaptation, elle est facilitée par la mystique islamique et par certains mouvements de la mystique islamique assez souples pour justement permettre cette adaptation et cette intégration. qui fait que même si ce chamanisme islamisé, on l'appellera ainsi ensuite, reste assez mal vu des docteurs de la loi, par exemple, il est très présent dans le monde populaire. Et surtout, donc, il répond à des besoins essentiellement de guérison. La guérison, bon, théoriquement, d'une manière théorique, la guérison dans le chamanisme, c'est la perturbation d'un corps par un esprit. Donc, il est nécessaire qu'un professionnel des relations du visible avec l'invisible puisse justement négocier avec cet esprit et soigner la personne. De là, donc, la présence de ces chamans.
Oui, vous disiez le chamanisme s'est islamisé. Je crois que vous dites aussi très souvent que le chamanisme s'est soufisé, en réalité. Faisons un saut dans le temps. Au moment de la dislocation de l'URSS, comment les autorités des nouveaux États indépendants vont se positionner par rapport aux pratiques chamanistes? Est-ce qu'elles vont le tolérer? Est-ce qu'elles vont peut-être même le mettre en avant? Et de façon plus générale, dans quelle mesure est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, ces pratiques chamanistes font partie, d'une certaine manière, des identités qu'on va trouver dans ces régions, Thierry Zarkon?
Oui, alors, la politique va changer selon les républiques. Selon que les républiques sont beaucoup marquées par un islam un petit peu fort, donc je dirais par exemple l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, ou au contraire par une forme plus douce, comme le Kazakhstan ou le Kirghizistan. Alors, déjà à l'époque soviétique, naturellement, au nom de la science, toutes les formes d'islam superstitieuses, rétrogrades, comme ce chamanisme islamisé, étaient pourchassées et persécutées. Alors, elles sont ensuite... Elle se libéralise d'une certaine manière, elle profite donc de cette liberté accordée à toutes les formes religieuses après les indépendances pour se remanifester à nouveau de manière visible. Cependant, par exemple, en Ouzbékistan, elles sont naturellement, ce chamanisme islamisé n'est pas très bien vu, mais il n'est pas réellement pourchassé. On lui crée des problèmes, néanmoins. Mais au Tadjikistan, il a été interdit dans les années 2010. Alors, totalement, formellement interdit,
Les chamans
étant jugés comme des imposteurs ou des mauvais musulmans, etc.
Mais pour quelle raison? Parce que la question qu'il y a derrière, Thierry Zarkon, et là j'en reviens peut-être à la question de l'islam radical, c'est qu'on aurait pu penser qu'il aurait pu y avoir, de la part des autorités, le désir, d'une certaine manière, d'utiliser le soufisme, voire même le chamanisme dans sa version soufisée, pour lutter contre l'islam radical. Après tout, il est préférable pour elle de voir se développer des pratiques chamanistes plutôt qu'un courant de l'islam radical qui potentiellement peut basculer dans l'action terroriste.
Oui, alors là, c'est tout à fait juste aussi, mais c'est beaucoup plus subtil, dans la mesure où l'État a tout à fait réhabilité une forme de soufisme, enfin les États ouzbeks, par exemple, en particulier, c'est-à-dire ils ont réhabilité une forme de soufisme, mais une idéologie soufisme, c'est-à-dire une doctrine soufie, et absolument pas des confréries. Et ces confréries, ils les utilisent effectivement comme un instrument contre le radicalisme. Mais les formes de soufisme liées au chamanisme,
quelle forme
populaire et écartée.
C'est quelle forme, cette utilisation, justement?
Alors, l'utilisation, elle s'est faite sous la forme, d'abord, vous savez, dans la construction des nouvelles identités, dès les années 90-91, on a réhabilité un grand nombre de figures, de vieilles figures de la pensée, de la culture, de l'islam, qui avaient été décriées et rejetées et interdites, donc, par l'État soviétique. Et parmi ces figures se trouvent de très grandes personnalités soufies, qui sont réhabilitées dans le cadre de très grandes messes et fêtes de l'identité. Et deux figures en particulier émergent, qui sont toutes les deux des très grandes figures soufies de la région. L'une est Ahmed Yassavi au Kazakhstan, la seconde est Baoudi Nakhchband en Ouzbékistan, donc à Boukhara. En 90, vous voyez, même un peu avant donc les indépendances, on réhabilite dans une grande messe identitaire Ahmed Yassavi au Kazakhstan. Et en 93, c'est le tour de Baoudi Nakhchband à Boukhara, donc par les Ouzbeks. Et en 94, il y aura même une année Yesevi qui sera donc choisie par l'UNESCO pour aller dans le sens de ces redécouvertes identitaires.
C'est intéressant, Bayram Balcheux, cette réhabilitation de grandes figures soufis dans le cadre de grandes fêtes nationales pour les réintégrer d'une certaine manière au récit national.
Oui, effectivement, Thierry l'a bien expliqué tout à l'heure, comment il y a le pouvoir qui essaie d'instrumentaliser, d'utiliser cet islam soufi au nom de la lutte contre le salafisme, le wahhabisme, le radicalisme. Mais en même temps, c'est un phénomène qui, quelque part, appauvrit en quelque sorte le soufisme, parce que historiquement, vous aviez, et je pense que Thierry peut l'expliquer mieux que nous, vous aviez des autorités religieuses soufis qui étaient là pour avoir des disciples autour d'eux, pour développer une espèce de pensée soufie, mais qui malheureusement, de nos jours, du fait de cet accaparement, en quelque sorte, de l'islam soufi par les pouvoirs en place, on a le sentiment en fait qu'il n'y a plus la liberté que les cheikhs avaient autrefois, et que quelque part ils ont été récupérés, mis au service d'un islam officiel qui malheureusement peut-être contribue à la lutte contre l'islamisme, et encore que ce n'est pas toujours suffisant, mais qui appauvrit un peu la pensée islamique dans ces pays-là, malheureusement.
Thierry Zarkon, il n'y a plus d'autorité soufie, et ce sera ma dernière question.
Oui, alors la réhabilitation en fait de ces figures, elle est à la carte. En fait, il y a des confréries soufis en Ouzbékistan, mais celles-ci se sont vues opposer une fin de non-recevoir par le pouvoir en Ouzbékistan. Le pouvoir ne veut pas de structure qu'il ne contrôle pas, donc il ne fait que réhabiliter une doctrine soufie. Cela dit, ce qu'il faut voir, c'est que dans cette réhabilitation, il y a quand même un processus de réinterprétation. C'est-à-dire qu'il faut que ces formes d'islam conviennent aux nouvelles républiques. Il faut que ce soit des islams, s'ils sont un petit peu traditionnels, il faut les rendre modérés. Il faut les rendre tolérants, il faut les rendre nationales. Donc il y a un véritable phénomène de transformation.
Et ça, on n'y arrive pas ? Et ça, on n'y arrive pas ?
Si, justement, on y parvient. C'est-à-dire que ces grandes figures qui ont toujours été populaires, on les resserre donc aux nouvelles populations, mais avec, je dirais, une dimension tout à fait beaucoup, beaucoup plus acceptable et conforme au régime. C'est-à-dire, par exemple, la mystique pure, l'ascétisme, est écartée pour plutôt une éthique sociale. De la même manière, ce sont des formes de soufisme qui doivent devenir nationales. Vous voyez, il y a toute une relecture et qui marche, qui fonctionne.
Oui, donc ce n'est pas un échec total, ça fonctionne.
Ah oui, absolument, dans ce sens-là, oui. Mais le vrai soufisme, en fait, celui qui a vécu de manière autonome, reste, lui, un petit peu sur le côté, si vous préférez.
Merci beaucoup, Thierry Zarkon, d'avoir été avec nous. Je rappellerai deux de vos ouvrages, Le chamanisme de Sibérie et d'Asie centrale, que vous aviez coécrit avec Charles Stepanov, mais aussi Le soufisme, voie mystique de l'islam, qui était paru aux éditions Gallimard. Beaucoup à vous, Bayram Baltcheux.
J'en prie.
De nous avoir accompagnés ce matin, de nous avoir éclairés sur cette question de la religion, point de départ, l'islam, point de départ des identités post-soviétiques. C'était le titre qu'on avait choisi pour cette émission de ce matin. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS, membre du CERI et spécialiste de ces mouvements islamistes turcs et de leur activité missionnaire en Asie centrale post-soviétique. C'était d'ailleurs l'objet de votre thèse il y a quelques années. Merci infiniment de nous avoir accompagnés.
Merci beaucoup.
Presque 11h53, l'heure pour nous de retrouver notre chaman à nous.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Et oui, c'est Brice Couturier, bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors beaucoup d'observateurs estiment que nous vivons un tournant absolument historique. Comment caractériser l'époque qui se termine et que peut-on deviner de ce qui s'ouvre avec l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche dont vous parlez depuis hier ?
Eh bien, Anna Palacio appelle à réviser la thèse de l'historien britannique Eric Hobsbawm, selon lequel le court XXe siècle n'aurait duré en réalité que 75 ans. Selon l'historien britannique, en effet, ce siècle aurait véritablement commencé en août 14 avec la déclaration de guerre, et se serait achevé en septembre 1989, lorsque des centaines de milliers d'Allemands de l'Est ont franchi le mur de Berlin. Hobsbawm, communiste et fidèle toute sa vie à l'Union soviétique, pouvait dater de l'effondrement de ses propres illusions l'entrée dans une nouvelle ère, mais nous devons considérer plutôt, estime l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, que les tendances présentes entre les deux guerres, et surtout après la seconde, ont culminé en réalité au cours de la période 1989-2017. La démocratie libérale, armée du sens d'une mission, l'idéologie des droits de l'homme, l'ouverture du commerce international et le multilatéralisme avaient manifestement partie liée. Ces idées, elles ont brièvement triomphé à l'époque de Bill Clinton et de Tony Blair. Le fameux économiste Nouriel Roubini fait une analyse comparable. Depuis leur victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie, relève-t-il, les États-Unis ont garanti un certain ordre international. Celui-ci était caractérisé par le libre-échange et la sécurité commune. Cet ordre mondial, écrit Roubini, a produit 70 années de prospérité. Mais Donald Trump, élu sur la base d'un programme isolationniste, a promis de lui tourner le dos. Dans son discours inaugural, il a notamment déclaré « À partir d'aujourd'hui, ce sera l'Amérique d'abord. Nous devons protéger nos frontières des ravages que provoquent d'autres pays en fabriquant nos produits, en volant nos compagnies et en détruisant nos emplois. Et aussi, les États-Unis ne subventionneront plus les armées dans d'autres pays tandis qu'on accepte de diminuer nos propres forces militaires. Fin de citation. Or, souligne Roubini, de tels tournants ont déjà eu lieu dans le passé, en particulier entre les deux guerres mondiales, lorsque les États-Unis se sont retranchés des affaires européennes tout en participant aux guerres commerciales et monétaires en cours sur le vieux continent. Dans le New York Times, David Sanger rappelle que le slogan « America First » a été lancé par l'aviateur Charles Lindbergh à la fin des années 30 pour dissuader les États-Unis de se lancer dans la guerre contre l'Allemagne nazie dont le célèbre aviateur était un fervent admirateur. Comme à cette époque, avertit Roubini, le désengagement américain actuel risque de provoquer des catastrophes internationales. Dans les années 30, les puissances révisionnistes, l'Allemagne hitlérienne au premier chef, ont cru pouvoir profiter du retrait américain. Aujourd'hui, d'autres puissances révisionnistes avancent leurs pions d'une manière dangereuse pour l'ordre international.
Et alors, quelles sont les puissances révisionnistes d'aujourd'hui, en tout cas selon Nouriel Roubini?
Eh bien, la Russie au premier chef. Elle a annexé, on s'en souvient, une partie de l'Ukraine. Elle impose à présent ses solutions en Syrie. Elle menace aussi les États baltes et elle redevient très influente dans les Balkans. Trump, en déclarant l'OTAN obsolète, signale à Poutine que le parapluie nucléaire américain se referme au-dessus de l'Europe. En Asie aussi, la suprématie économique et militaire de l'Amérique a produit plusieurs décennies de stabilité, écrit encore Roubini. Mais là encore, une puissance émergente vient défier le statu quo, la Chine. En abolissant le partenariat transpacifique, comme Trump vient de le faire, à peine installé à la Maison-Blanche, il envoie un signal clair. Après la Corée du Sud et les Philippines, les alliés traditionnels de l'Amérique ne vont avoir d'autre choix, je cite, que de se prosterner devant la Chine. Or, le Japon et l'Inde, elles-mêmes grandes puissances régionales, ne le feront pas. Elles vont devoir donc se militariser. Un retrait américain hors de la région pourrait ainsi la faire plonger, écrit Roubini, dans un conflit militaire. Conclusion, les politiques protectionnistes, isolationnistes, le slogan « l'Amérique d'abord » constitue, je cite, « le cocktail idéal d'un désastre économique et militaire ». C'est aussi la position de Richard Haass, le président du think tank Council on Foreign Relations. On ne s'étonnera pas que ce théoricien des relations internationales, qui a été l'un des proches conseillers de George W. Bush, critique vivement une diplomatie menée sous le slogan « America First » dans son dernier livre « A World in Disarray ». Elle tourne en effet le dos à la politique interventionniste des néoconservateurs dont il a fait partie. Toutefois, Richard Haass conseille aux partenaires des États-Unis de laisser du temps à l'administration Trump avant de se faire une idée définitive du tournant diplomatique pris. Le temps, dit-il, qu'ils aient mis de l'ordre dans leurs affaires. En effet, l'équipe Trump compte des personnalités qui ne dissimulent pas leur hostilité à l'isolationnisme du nouveau président. C'est notamment le cas du secrétaire à la Défense, le général James Mattis, un fervent défenseur de l'OTAN, lui. Sans compter, comme le souligne Rajamohan sur le Carnegie indien, que Trump devra affronter sur cette ligne non seulement l'opposition démocrate, mais une bonne partie des sénateurs républicains. Il faudra que les choses se décantent avant de pouvoir dire où Trump est en train d'entraîner le monde.
Et c'est votre sujet toute cette semaine, où Trump finalement emmène le monde, c'est ce qu'on essaye de comprendre à travers vos chroniques. Merci beaucoup Brice, des chroniques qu'on peut retrouver bien sûr sur le site de France Culture, www.franceculture.fr, on peut les écouter, les réécouter, les podcaster, ainsi que Culture Monde d'ailleurs. Dans un instant sur France Culture, Brice, je vous donne rendez-vous évidemment demain, dans un instant c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.